il a rien à voir. Je veux dire, même le mec, s'il a pris X années en plus, il a rien à voir avec cette tronche-là. Enfin...
Les doutes du voisin de Guy Joao, l'homme arrêté hier à Glasgow et que la police soupçonne d'être Xavier Dupont de Ligonnès. Nous reviendrons dès le début du journal sur ce qui a amené à ce rebondissement invraisemblable hier et à cette arrestation en Écosse.
Extraordinaire information et nous avons la chance de vous la faire partager ce matin sur Europe 1 en direct. La Tunisie vote demain pour élire son président. Le débat du second tour avait lieu hier soir entre les deux finalistes et nous allons rejoindre sur place notre envoyé spécial.
Et puis la technique bien particulière des militants du mouvement Extinction Rébellion pour ne pas se faire déloger par la police dans les manifs.
Ils auront beau faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas nous faire partir sans venir défoncer le béton et venir couper le tube.
Nous vous expliquerons comment fonctionne ce système nommé Armlock.
Excellent réveil à toutes et à tous et passez un très bon samedi.
Europe 1.
Tant que l'ADN n'a pas parlé, nous resterons prudents. Mais hier, la police écossaise a arrêté un homme à son arrivée à l'aéroport de Glasgow. Un homme qui pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès. Les empreintes digitales correspondent. Ce serait un dénouement spectaculaire 8 ans après la découverte des corps de la femme et des 4 enfants de ce père de famille nantais qui avait disparu depuis 2011.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1 est en direct avec nous. Chloé, bonjour. Qu'est-ce qui a mené les enquêteurs jusqu'à Glasgow en Écosse sur la trace donc de cet homme ?
Eh bien, c'est un renseignement humain qui est le point de départ de cette interpellation. Une dénonciation parvenue aux policiers écossais sur l'arrivée imminente par avion au départ de Paris de Xavier Dupont de Ligonnès. Une information aussitôt transmise à leurs homologues français, mais trop tard pour arrêter le fugitif hier avant le décollage de l'avion au terminal 2 de Roissy. C'est donc grâce aux échanges de données via Europol que ce sont finalement les policiers écossais qui ont cueilli le suspect à l'arrivée à Glasgow et comparer ses empreintes digitales, comparaison concluante, même si, comme l'a rappelé hier le procureur de Nantes, il faut encore attendre les résultats ADN pour être certain à 100% qu'il s'agit bien du père de famille suspecté d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants en 2011. Alors, d'après les premières constatations, le suspect serait méconnaissable physiquement. Il voyageait sous une autre identité, celle d'un certain Guy Joao, domicilié à Limay, dans les Yvelines, au domicile duquel les policiers français se sont rendus dès cette nuit en perquisition. Quant aux enquêteurs spécialisés français sur ce dossier, eh bien, ils sont attendus sur place en Écosse aujourd'hui.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1 en direct.
Et donc, Chloé y faisait référence à l'instant, nous allons écouter ce témoignage extrêmement étonnant et troublant aussi à ce stade, celui de cet habitant de Limay dans les Yvelines.
Il s'appelle Jacques, il habite dans cette commune de Limay, c'est l'un des voisins de Guy Joao, l'homme arrêté à l'aéroport de Glasgow et que les enquêteurs soupçonnent d'être Dupont de Ligonnès. Mais Jacques est formel, il le dit au micro Europe 1 de Jean-Gabriel Bourgeois, il connaît bien Guy Joao depuis 30 ans, ça ne peut être qu'une erreur.
Vendredi matin, il a pris l'avion, comme il fait d'habitude. Il rentre en Écosse, sa femme l'attendait à Glasgow, et on l'a eu tout à l'heure au téléphone. Et elle a dit, bah oui, voilà, ils l'ont arrêté, j'ai pas plus de nouvelles, rien. Elle était farée, quoi.
Il a rien à voir, je veux dire, même le mec, s'il a pris X années en plus, il a rien à voir avec cette tronche-là. Enfin, il dit, c'est un mec qui est grand, visage rond, enfin, mais rien à voir avec ça. Je suis monté, moi, justement, pour essayer de voir s'il n'y avait pas un policier, pour lui dire qu'ils étaient en train de se planter lamentablement. Donc j'ai discuté avec un flic qui était là-haut, et j'ai dit au mec, mais attendez, vous vous plantez carrément. Ça fait 30 ans que je le connais, ce mec-là. C'est un ami. Mais arrêtez, là. Vous faites une boulette monstrueuse. Demain, les tests ADN confirment que c'est lui. Ah, je peux vous garantir que là, c'est pas possible.
Jacques, habitant de Limay dans les Yvelines, au micro Europe 1 de Jean-Gabriel Bourgeois, notre reporter qui nous disait que des policiers étaient toujours présents ce matin devant la maison du suspect au terme d'une nuit de perquisition. Vous pouvez retrouver ce témoignage de Jacques sur notre site europe1.fr ainsi que toutes les dernières informations sur cette affaire Dupont de Ligonnès.
Et je vous rappelle qu'à 8h moins le quart, nous serons en studio avec Christophe Ondelat qui a beaucoup travaillé en son temps sur cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc, son témoignage sera précieux pour essayer de démêler le vrai du faux. Dans un instant, la suite du journal. Un débat entre deux hommes dont l'un vient tout juste de sortir de prison. Il y avait foule hier devant la télévision tunisienne pour regarder le duel entre les deux candidats à la présidentielle.
Il est 7h05 sur Europe 1.
Bernard Poirette accompagne vos week-ends sur Europe 1. La matinale d'Europe 1, le 6-9.
Vos informations continuent avec François Geffrier et Bernard Poiret.
François, c'est demain que la Tunisie doit se choisir un président pour remplacer Caïd Essebsi qui est mort cet été.
Après la sortie de prison de l'un des deux finalistes, Nabil Karoui, un débat télévisé a pu être organisé in extremis avec son rival Kais Saied. Un débat suivi partout dans le pays comme à Tunis, où se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1, Mathieu Bock.
Assis face à face, les deux candidats mettent du temps avant de se regarder dans les yeux. Il faut que les présentateurs insistent plusieurs fois pour qu'ils se parlent directement.
Kais Saied a un programme Walt Disney qu'il ne peut pas appliquer. Il y a des partis comme Ennahda qu'il ne connaît pas, mais qui veulent le propulser à Carthage. Il y a des pages Facebook sponsorisées qui le poussent, mais il n'est pas au courant. On a vu ce qu'Ennahda a fait avec Mounsef Marzouki.
Les jeunes qui sont derrière moi, ce ne sont pas des poupées de Walt Disney. Ils ont un vrai programme, eux.
Les Tunisiens, assis à la terrasse de ce café qui avait sorti un écran géant pour l'occasion, sont ravis que ce débat ait eu lieu, même s'ils restent chacun sur leur position.
J'étais claire dans ma décision avant même le débat. Donc sincèrement, le débat était genre un truc superficiel. Il ne s'agit même pas de programme, tu vois. On est à ce point-là en Tunisie. Je comptais voter blanc et je compte encore voter blanc. Personnellement, je n'assume pas de voter pour quelqu'un comme Kais Saied parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'il compte faire sur les libertés individuelles.
Ça s'est très bien passé dans les règles de l'art.
Son grand mérite, c'est d'exister. On a vu d'ailleurs comment ils ont eu du mal à rentrer dans le débat, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans des questions-réponses et c'est une fierté d'avoir ce genre de choses.
Désormais, les candidats n'ont plus le droit de s'exprimer. La prochaine fois qu'ils parleront, ce sera pour commenter les résultats attendus à partir de dimanche soir. Tunis, Mathieu Bock, Europe 1.
Et même si vous n'habitez pas Paris ou l'Île-de-France, vous en avez forcément entendu parler ces derniers jours. Le mouvement Extinction Rébellion a commencé des actions non violentes pour alerter sur la dégradation du climat.
Les militants ont un moyen d'entraver l'avancée des forces de l'ordre. Ça s'appelle en anglais Arm Lock, en français les bras verrouillés. Il s'agit de former une chaîne humaine en se tenant les bras et en s'attachant avec des blocs de béton. Notre reporter Pierre Herbulot a pu voir cette technique hier à Paris, place du Châtelet, qu'ils ont occupé quelques heures.
Ce sont des blocs de béton vert ou jaune de 45 kg posés au milieu de la route. Sur le dessus, une cavité est creusée, de quoi passer un bras pour s'attacher à l'intérieur. Margot, une militante d'Extinction Rébellion, m'a fait la démonstration.
Donc en fait, c'est un système où là, tu as un bracelet qui est réglable, au bout duquel tu as une chaîne et un mousqueton. Et à l'intérieur du top de plexi, tu as un petit écrou auquel tu vas te mettre dessus.
D'accord.
Et donc là, tu vas aller chercher l'écrou qui est au fond, te mettre dedans.
Voilà.
Donc là, tu es accroché.
Là, je suis accroché.
Et essaye de tirer.
Là, j'ai l'impression de tirer une montagne.
Tu es indélogeable, sauf si toi, tu décides de t'enlever.
Des blocs qui peuvent se fixer, s'emboîter les uns les autres comme des Legos pour bloquer une rue entière. Mais déloger les manifestants qui s'y attachent est tout sauf un jeu d'enfant. À côté de ces armlocks, Mathieu guette l'arrivée potentielle des forces de l'ordre, un livre à la main.
Ils auront beau faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas nous faire partir sans venir défoncer le béton et venir couper le tube.
Le but, c'est aussi quand ils essaient de nous crier, de crier très fort et de faire le comédien pour les ralentir, parce que l'unique but de ça, c'est de ralentir la progression des forces de l'ordre.
En Allemagne, où le armlock a été inventé, les militants vont même jusqu'à cacher de fausses poches de sang à l'intérieur. Elles se percent quand les policiers commencent à couper le béton.
Pierre Herbulot pour Europe 1.
Et à 7h10, c'est votre journal des sports avec François Geffrier.
Ce journal commence par du football. Ils sont désormais à une marche de la qualification pour l'Euro 2020. Je parle bien sûr des Bleus qui ont battu péniblement hier soir l'Islande.
Oui, ça n'a pas été un festival de buts. Succès 1-0 sur pénalty tiré par Olivier Giroud. Alors en conférence de presse d'après-match, les journalistes ont un peu titillé le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, sur le thème « Une si petite victoire face à une si petite nation ». Mais vous savez, Didier Deschamps, il ne faut pas le titiller.
Vous trouvez que pour les autres, c'est facile à l'extérieur ? C'est pas parce qu'on est champion du monde, tous les matchs sont toujours très difficiles. Et puis on a, peut-être pour vous, ça ne vous dit rien de l'Islande, mais voilà, c'est jamais évident de venir gagner ici. Quand c'est des adversaires comme ça, avec beaucoup de densité athlétique, une équipe généreuse, et bien, il fallait être là. Dans la difficulté, je veux bien, mais on a 6 occasions et eux, ils ont pas une miette. Si on doit être à chaque fois en difficulté comme ça, je veux bien que ça se répète.
Didier Deschamps au micro européen de Jean-François Pérès. Les autres résultats de la soirée, victoire à domicile d'Andorre 1-0 contre la Moldavie. Victoire de la Turquie 1-0 également contre l'Albanie. Ça c'est pour le groupe de la France, le groupe H. On suivra France-Turquie lundi soir 20h45, soirée spéciale sur Europe 1. Dans le groupe A, la République tchèque l'emporte contre l'Angleterre 2-1. Match nul 0-0 entre le Monténégro et la Bulgarie. Dans le groupe B, large victoire du Portugal à domicile 3-0 face au Luxembourg, 2-0 pour l'Ukraine qui recevait la Lituanie. À suivre aujourd'hui 8 matchs, dont Danemark-Suisse à 18h et Norvège-Espagne et Italie-Grèce à 20h45.
Et on parle aussi cyclisme dans ce journal, pas pour une course qui doit être courue, mais pour une réunion dont les coureurs attendent beaucoup.
Oui, réunion entre l'Association des cyclistes professionnels associés et l'Union cycliste internationale. C'est au sujet de la sécurité. Vous savez, il y a eu plusieurs chutes spectaculaires qui se sont produites ces derniers mois. L'une d'elles a même causé la mort d'un coureur belge. Des mesures sont promises et c'est tant mieux, selon Pascal Chanteur, ancien cycliste professionnel.
C'est clair qu'il y a plus de chutes parce que la tension nerveuse dans le peloton, vous avez les niveaux sportifs se sont nivelés par le haut. En plus, les tactiques d'équipe ont totalement changé par rapport à quelques années. Donc oui, il y a plus de stress, oui, il y a plus de dangers. Nous, il y a des choses, des priorités dans la sécurité, en l'occurrence les motos. De voir régulièrement des motos trop près du peloton, prise à défaut, prise de vitesse par un peloton. Et ça, ce n'est pas possible. Donc on doit travailler sur tout ça.
Pascal Chanteur, vice-président de l'association Cycliste Professionnel Associé.
Et ceci conclut le journal de 7h présenté par François Geffrier, qui fera aussi bien à 8h tout à l'heure. À tout à l'heure, François.
Tout à l'heure.